d'abord.
Bienvenue tout le monde les amis, ici c'est votre commandant de bord Roger Muntu, la voix de l'Amérique en direct de Washington, la capitale américaine. Attachez vos ceintures de sécurité, on décolle ce soir avec un nouveau sujet mais aussi avec des invités dont cet engin super fast, super sonique, super rapidos. Et bien sûr, cette semaine, je le disais en titre, notre émission s'intéresse à une question essentielle pour l'avenir des relations entre l'Afrique et les États-Unis d'Amérique. La grande question cette semaine, vous avez vite compris si vous êtes abonné sur mes réseaux sociaux, la grande question c'est comment la jeune génération de la diaspora africaine aux États-Unis peut-elle être inspirée à participer activement au rapprochement entre l'Afrique et les États-Unis. Oui, vous le savez très bien, les jeunes de la diaspora africaine représentent un point unique entre ces deux mondes, mêlant leurs racines culturelles africaines à leur expérience de vie ici aux États-Unis. J'étais moi-même jeune, je sais de quoi je parle. Mais comment transformer ce potentiel en une force concrète pour créer de synergies économiques, sociales, culturelles et politiques? C'est de ça qu'on parle cette semaine. Dans un monde de plus en plus connecté, nous explorons, bien sûr, nous allons explorer ensemble avec mes invités dans cette émission ce soir, les leviers qui pourraient motiver cette jeunesse à jouer un rôle clé dans le renforcement des liens avec leur terre d'origine. Quels sont les défis, les opportunités, les responsabilités même qui les attendent? Restez avec nous, on décolle comme c'est RM Show bien sûr, avec de la musique d'abord pour bien nous préparer et dans un instant, nous allons introduire nos invités.
You know that a nigga like me can change your life, oh baby. Everything.
écoutez RM Show, une émission de VOA Afrique en direct de Washington, DC, la capitale américaine. Ici votre commandant de bord, Roger Muntu, la voix de l'Amérique. Un grand plaisir de vous savoir nombreux. Alors ici, écoutez cette émission 7 jours sur 7. Hein, chaque soir entre 20h à 21h temps universel. Nous saluons nos amis qui nous captent à Dakar ce soir, nos amis qui sont à Bamako, ceux-là qui sont à Conakry et nos amis de Nzérékoré en Guinée. Conakry, merci infiniment à eux. Jean-Louis Mafema avec nous ce soir. Bonsoir Jean-Louis, comment ça va?
Ben bonsoir Roger, ça va? Ça va
tu très bien. Nous as manqué la fois passée, on était avec monsieur Nzanga Mobutu qui t'a demandé d'ailleurs.
Vraiment, je regrette.
Non, il a dit que t'as eu peur de lui, c'est pourquoi t'es pas venu.
Ah, peut-être bien, c'est quand même...
Parce que t'étais pas
à l'ombre du léopard.
Mais ouais, mais ça c'est sûr. Mais Jean-Louis, notre question cette semaine, c'est pas petit comme on dit à Abidjan, parce qu'on parle de la jeune génération, de la diaspora africaine aux États-Unis, comment cette jeunesse peut inspirer et participer activement au rapprochement entre ces deux pays, parce qu'aujourd'hui, les gens disent que l'espoir, c'est la jeunesse.
Oui, effectivement, Roger. Déjà qu'ils sont mieux outillés que nous étions à l'époque. Nous n'avions pas TikTok, Instagram, etc. et tout, pour vendre, au fait, une certaine image. Donc, avec tout ça, je me rappelle, je suis arrivé ici la première fois,
oui.
83. Quand je regardais la télé américaine, pour l'Afrique, il n'y avait que Tarzan et les bananes, c'est tout. Il n'y avait rien du tout. Mmh. Et aujourd'hui, les gens ont tout genre d'informations sur l'Afrique. Et c'est à la jeunesse d'aujourd'hui de bien la vendre. Tu vois, et ils ont toutes les opportunités pour le faire.
J'aime comment tu dis ça, la jeunesse de bien la vendre.
Ouais.
Mais écoutez, en tout cas, ce qui est sûr avec nous aujourd'hui, nous avons cet honneur, ce privilège de recevoir des gens pour nous en parler. Et ils viennent de la communauté congolaise de Washington, DC, hein, Washington Metropolitan, comme on dit. Voilà, CC, WM, hein.
Ouais,
faut pas me dire ça en anglais, WM. DC, CCWM, la communauté congolaise de Washington Metropolitan, voilà, qui est d'ailleurs une organisation caritative qui aspire d'ailleurs aussi à devenir une partie intégrante de l'expérience de tous ces migrants congolais et des personnes d'origine congolaise hein, vivant dans la région DMV, Maryland, Virginie. L'organisation met l'accent non seulement sur la promotion sociale des immigrants congolais, mais aussi sur la solidarité entre eux et la valorisation des aspects positifs du patrimoine congolais. Oui, la communauté congolaise de Washington, le métropolitain CCWM a été créé en réponse à l'absence d'une organisation structurée capable de promouvoir à la fois les intérêts et le patrimoine même des immigrants congolais vivant dans cette région. C'est également une armée de bénévoles hein, qui lutte pour une cause commune dans un environnement où chacun peut contribuer. En tout cas, c'est très important. Et nos invités ce soir, ce sont des candidats aux élections présidentielles prochaines hein, de cette grande communauté. Et je commence d'abord par introduire mon invité, Daddy Jamba, qui est un professionnel chevronné, en tout cas comptant plus de 20 ans d'expérience dans la région. Hein, les échanges commerciaux et le leadership stratégique hein, actuellement. Il est branch manager, comme on l'appelle ici aux États-Unis, chez Ferguson Enterprises. Il poursuit également un doctorat en gestion des affaires à Liberty University en complément de son MBA hein, et de sa licence en sociologie et anthropologie. Sa carrière est marquée par des réalisations axées sur le succès organisationnel et l'excellence opérationnelle. En tant que président du conseil d'administration de la communauté congolaise de Washington DC et fondateur de Congo Organize, Daddy Jamba s'engage à autonomiser sa communauté et à promouvoir des initiatives éducatives et sociales en République démocratique du Congo. Il est également PDG d'Imani Multi-Services à Kinshasa et membre actif du Pacte mondial hein, des Nations Unies, RDC, témoignant de son engagement envers l'excellence et un leadership impactant dans ses activités professionnelles et communautaires. En tout cas, Monsieur Daddy Jamba, merci d'être là ce soir. Hein.
Merci pour l'invitation.
Je ne sais pas où vous trouvez le temps de faire tout ce que je viens de lire, mais on en parlera. Nous y reviendrons. Alors, mon deuxième invité aujourd'hui, c'est Monsieur Zoé Adjanga, qui est chef d'entreprise et professionnel hein, en informatique, dont l'administration des bases de données, hein, propriétaire de l'institut Z-Tech hein, et du restaurant Slashy Deluxe. Il est coach de vie, conférencier et motivateur. Il a travaillé avec différentes organisations, notamment Miss RD Congo, Miss Ebony World, CCWM, donc la communauté congolaise hein, de Dallas aussi, mais aussi d'ici à Washington, et aussi Afri Impact Mag. Il est actuellement secrétaire du conseil d'administration du CCWM. En bref, la passion même de Zoé est d'inspirer, de changer le point de vue des gens et les motiver même à exploiter leur potentiel. Là, il y a beaucoup, en tout cas, qui connaissent bien les vidéos inspirantes de Zoé Adjanga. Zoé Adjanga, monsieur Zoé Adjanga, merci d'être là, merci de répondre à notre invitation aujourd'hui.
Merci Roger, c'est un plaisir.
Vous aussi, je sais pas combien vous trouvez les temps de faire tout ça et vous proposer à devenir candidat à ces élections. Mais on en parlera. D'abord, cette question de la semaine, monsieur Jamba, c'est de savoir... La question de la semaine, comment la jeune génération ici aux États-Unis, de la diaspora africaine hein, en général, hein, pas seulement du Congo, mais ici, parce que vous connaissez beaucoup de ces Africains qui habitent dans cette région, comment cette jeune génération de la diaspora africaine peut-elle inspirer à participer activement au rapprochement de ces deux continents? Parce qu'aujourd'hui, ils sont peut-être américains, mais d'origine africaine, de plusieurs pays, mais comment ils peuvent travailler pour rapprocher ces deux pays, ou les États-Unis et leur continent?
Oui, merci Roger pour la question. Pour inspirer les jeunes générations de la diaspora, oui. La jeune génération de la diaspora, je dirais que à s'engager activement dans le renforcement de liens entre oui. l'Afrique et les États-Unis.
Oui.
C'est ça votre question.
Exactement, exactement.
Ok, je vais donner quelques approches. Je pense qu'ils doivent mettre en avant les histoires des réussites. J'explique, c'est-à-dire présenter des exemples de jeunes Africains ou membres de la diaspora ayant réussi à créer des ponts entre les deux régions. Ça, c'est un point important. Des récits inspirants qui peuvent démontrer l'impact possible de leur engagement. C'est-à-dire, nous avons beaucoup de gens. J'ai entendu, c'est comme vous avez présenté mon frère Zoé ici, et tout ce qu'ils ont fait, et tout ce que moi-même j'ai fait, je suis encore jeune. Donc, nos expériences peuvent aussi inspirer à créer ce pont. Mmh. Je peux aussi parler de créer les plateformes de réseautage. Entre les forums, organisations ou des événements permettant aux jeunes de se rencontrer, collaborer et échanger des idées. Donc, ça permettait à ce que chacun amène ses initiatives et pendant ce temps, les gens, il y a des idées qui s'échangent et ça aide aussi à créer ce lien. Il y a des initiatives comme des festivals culturels. On peut parler des expositions commerciales ou des programmes de mentorat qui peuvent aussi être très efficaces. Je parlerai aussi de la sensibilisation et éducation. Là, c'est mettre en place des programmes éducatifs sur l'histoire, les défis et les opportunités des relations entre l'Afrique et les États-Unis. Cela pourra bien inclure les ateliers, les webinaires ou bien des partenariats avec les universités. Voilà. J'ai connu même l'expérience, j'ai étudié au Bénin. Je pense qu'on avait cette expérience à l'université d'Abomey-Calavi. S'il y a des Béninois qui me suivent, je les salue. Je les salue, je suis le fruit de l'université d'Abomey-Calavi. Ah, donc d'accord. On a connu ce genre d'expérience quand j'étais à Cotonou.
À Cotonou,
au Bénin.
Ouais.
Oui. Il y a aussi encourager l'entrepreneuriat et l'innovation.
Et l'innovation, ouais.
Voilà.
Ouais,
soutenir les jeunes entrepreneurs qui souhaitent développer les projets liés au commerce, à la technologie ou au développement durable entre l'Afrique et les États-Unis. Cela pourrait se faire par le biais des subventions, incubateurs ou les connexions avec les investisseurs.
Bon, ça, je vais pas aller parce qu'on n'a pas beaucoup
on
de
a
temps.
On n'a pas beaucoup de temps, oui. Ça, c'est
et
déjà...
puis, promouvoir les échanges culturels.
Oui, ça, c'est très important.
Exploiter les plateformes numériques.
Ouais.
Utiliser les réseaux sociaux.
Les réseaux
et
sociaux.
Puis, faciliter l'engagement civique.
Pour encourager
les jeunes à participer aux discussions politiques, aux plaidoyers et aux initiatives qui influencent les relations entre les États-Unis.
Exactement.
Et l'Afrique.
Et l'Afrique, très bien. On nous
voilà, donc c'est tout ce que j'ai à
proposer. Mais nous reviendrons quand même.
Zoé,
je le disais en titre, vous avez vous-même l'habitude de parler à cette jeunesse à travers vos vidéos. Donc ça, c'est pas quelque chose de nouveau pour vous, en tout cas.
Absolument pas.
Alors, qu'est-ce que vous répondez à cette question?
Comment rapprocher ces deux pays?
Voilà, vous connaissez beaucoup de cette jeunesse-là, ici, aux États-Unis, qui étudie, qui termine. Mais comment rapprocher ces deux mondes? Parce que, bien, ils sont américains, c'est vrai, mais ils n'oublient pas leurs origines, on doit le dire.
Ben, pour répondre, je dirais que la jeunesse est déjà rapprochée. Parce que déjà, via les réseaux sociaux, TikTok, Instagram, Facebook, c'est déjà rapproché. Et on voit déjà, il y a un mouvement de beaucoup de jeunes qui quittent la diaspora pour aller s'investir au pays. Je suis un exemple parce que mon restaurant Slash Delix est à Kinshasa.
C'est à Kinshasa.
Nous offrons déjà de l'emploi à certains jeunes Congolais qui essaient un peu de s'améliorer par rapport à leur vie. Alors, ce que je dirais est que d'abord, on commence par créer une plateforme qui sera une plateforme de jumelage donc entre le pays, pour moi, je dirais la RDC, où on a des gens de la diaspora qui sont déjà, qui vivent déjà au Congo, qui peuvent comment faire en sorte de création de plateformes pour faciliter en fait ce jeune-là qui quitte les États-Unis d'aller et trouver des opportunités opportunités facilement. Par exemple, lorsque j'étais au point de créer.
Juste qu'on va demander à Dali d'éloigner un peu le téléphone parce que ça fait une connexion avec le micro. Voilà. Merci, c'est bon.
Pas de problème. Alors, lorsque je suis allé m'investir dans le domaine de la restauration, j'ai connu d'énormes problèmes parce qu'il y avait beaucoup de tracasseries, beaucoup de choses. Et j'aurais souhaité avoir une plateforme ou des gens de diaspora qui pouvaient m'orienter dans ce sens-là. Et je pense que la jeunesse qui est aux États-Unis veut réellement s'impliquer. C'est pour cela que je veux même parler de ça dans mon programme. La diaspora qui se retrouve ici aux États-Unis, en Europe ou en France, ils veulent vraiment s'ingérer au pays. Mais c'est bon, il y a un problème de coaching, il y a un problème d'accompagnement. Alors, si on peut avoir cet accompagnement-là, ils vont faire.
Ils peuvent faire des miracles.
Bien sûr.
C'est cette partie-là qui est plus importante. Et comme vous dites, on va revenir. Est-ce qu'on a déjà Nils Kinoani, Lionel? Est-ce qu'on l'a? On n'a pas encore eu, d'accord. Mais Monsieur Nils Kinoani qui devait être là avec nous, qui aussi est notre candidat, s'il est excusé parce que le travail l'a appelé et il pourra être avec nous peut-être avant la fin de cette émission. Et ça, c'était avec nos invités pour répondre à cette question de la semaine. Mais il faut dire aussi que ces deux invités aujourd'hui sont candidats au présidentiel de cette communauté ici aux États-Unis qui est une très grande communauté. Jean-Louis Mafema, le CCWM, une très grande communauté qui représente les immigrants, en tout cas de la République du Congo dans la région. Très très important et un rôle que moi je ne pourrais même pas exercer. Je sais pas comment quelqu'un peut se jeter dans l'eau comme ça.
Ah ça.
Alors. Zoé, la question c'est de savoir d'abord parce que le segue était super bien, qu'on veut savoir quelle est votre vision globale pour la CCWM pendant votre mandat que vous voulez prendre.
Okay.
Vision d'abord pour qu'on puisse comprendre un peu comment vous voyez la chose.
Merci beaucoup Roger. Alors ma vision, notre mot clé ou notre motto, on l'appelle The Voice of Change, la voix du changement. Alors pourquoi est-ce qu'on dit ça? C'est parce qu'on nous voulons amener une nouvelle façon de réfléchir, de nouvelles opportunités au sein de la communauté, mais aussi utiliser notre voix pour être en fait cette inspiration, cette nouvelle inspiration au niveau de la communauté.
Oui.
Alors la vision est tout d'abord apolitique, parce que la communauté n'est pas quelque chose qui est lié à la politique, mais aussi amener la transparence dans la gestion de la CCWM. Alors, on a connu des problèmes de gestion dans le passé, nous voulons amener cette transparence-là où la communauté a cette clarté-là, la manière dont les choses sont gérées au sein de la communauté. Mais aussi l'inclusion de tout Congolais, de tout le Congolais vivant dans la région de DMV. Alors le problème que nous rencontrons aujourd'hui, c'est que il y a un peu de séparation, il y a des gens qui sont communément qui sont venus sous le statut de réfugié, qui se groupent entre eux, et nous voyons aussi la problématique où le Kinois se groupe entre eux, ou ceux-là qui viennent de Katanga se groupent entre eux. Alors le message, c'est de dire à tout le monde que nous sommes tous enfants du Congo et que c'est important que nous puissions travailler ensemble, rester ensemble. Alors lorsque nous parlons de cette inclusion de tout le Congolais, ça veut dire pas seulement le jeune, mais aussi le vieux. Alors qui sommes-nous sans nos aînés? ceux-là qui sont venus avant nous, ils vont nous servir de mentor, ils vont nous servir de coach pour en fait nous donner l'élan pour réussir ici. Si je suis ce que je suis aujourd'hui, c'est à cause de coaching de plusieurs aînés qui m'ont montré le chemin, qui m'ont donné l'opportunité de travail. Mais aussi, nous allons créer, comme je l'ai dit tout à l'heure, le programme de mentorat. Mais aussi promouvoir le leadership au sein de la communauté. Nous avons beaucoup de leaders qui sont trop jeunes, mais qui mais nous leur donnons pas assez d'attention. Mmh. Alors le problème, c'est que nous voulons promouvoir cette leadership-là. Nous voulons amener ces enfants-là à devenir en quelque sorte nos avocats. Par là, ils partent dans les écoles, dans les universités, et même dans leur milieu de travail, de parler autrement du Congo. Alors autre chose aussi, l'accompagnement dans la recherche d'opportunités. Je vais expliquer ça, mais je m'arrête juste là pour l'instant.
Mais merci beaucoup. Ça donne aussi le temps à Monsieur Djamba de répondre à la même question, hein, vision.
Brièvement, je dirais que quand vous parlez de la vision, je voulais un peu apporter une précision là-dessus. La CCWM, comme une organisation, a déjà sa vision inscrite dans les articles d'incorporation. En tant que président...
Vous n'amenez rien de nouveau ou vous avez...
On n'amène rien de nouveau, on vient pour améliorer. Donc, en tant que président, chaque président vient avec une mission pour accomplir la vision qui est déjà inscrite dans les articles d'incorporation, qui malheureusement jusqu'à aujourd'hui, je pense que ce n'est pas encore atteint. Parmi les objectifs qu'il y a dedans, il y a la maison congolaise, il y a l'implication de membres. Donc c'est
juste avant de continuer, quand vous dites la maison congolaise, c'est quoi pour les amis qui nous écoutent? C'est quoi exactement?
Oui, pour les amis qui nous écoutent, la maison congolaise c'est juste un endroit que nous pensons que les Congolais peuvent se retrouver et vendre notre image culturelle surtout. Aujourd'hui, les choses évoluent dans ce pays, les États-Unis où nous vivons. Nous avons des gens aussi qui ont du business. Ça sera un endroit où, en bref, on va voir notre image du Congo. Et nous voulons cette maison pour servir même de cadre d'éducation de nos enfants. Un cadre où on va commencer à donner des cours, un cadre où on va commencer à faire des expositions culturelles du Congo. Donc c'est la vitrine de la RDC dans ce pays, les États-Unis. Et nous voulons cette maison, car c'est parmi les objectifs même de la création de la communauté que nous avons trouvée. Et nous devons tout faire pour
prendre là où c'est.
Et réussir à avoir cette maison qu'on n'a jamais réussi à avoir depuis 10 ans, 11 ans maintenant.
Ok, nous y reviendrons pour parler de cette maison à Jean-Louis Cheveux.
Non, justement, je voulais parler de ça parce que j'étais vraiment dans cette histoire de maison congolaise à fond.
Ah, tu étais travaillé dessus. Donc tu es patron, tu ne dis pas ici à la Voix de l'Amérique que tu es patron.
Non, j'ai beaucoup travaillé pour faire que ce rêve-là devienne une réalité. Mais ma question maintenant, c'est que les équipes précédentes ont essayé, ils n'ont pas vraiment réussi à faire bouger les aiguilles de la montre. Comment pensez-vous, tous les deux, comment pensez-vous à arriver à le faire? Un changement de méthode ou bien comment vous allez essayer de parvenir à ces faits-là?
Parce on commence avec Zoé alors.
Oui, c'est une question d'argent, bien sûr. Ouais, okay. Ce sont des choses qui demandent des finances. Alors comment vous pensez que vous pourrez arriver à faire bouger les aiguilles?
Zoé.
Une chose qui est très simple, c'est que premièrement, avant d'arriver à l'aboutissement d'un projet, les gens qui s'investissent dans le projet doivent comprendre le pourquoi. Et on a besoin d'un grand nombre d'abord de Congolais qui doivent s'ingérer au sein de la communauté. Ça, c'est la première des choses. Parce que lorsque nous aurons la maison congolaise, bien sûr, lorsque vous avez un bâtiment ou bien une maison, il y aura des problèmes de réaménagement, il y aura des problèmes de problèmes d'eau, problèmes d'électricité, tout cela. Et on a besoin d'avoir vraiment assez de gens qui peuvent supporter en termes d'investissement, mais aussi de programmes de grants. Alors, ce que je dirais, avant d'arriver là, il y a d'abord deux étapes. La communauté, pour l'instant, je pense pas que dans les deux prochaines années, on peut atteindre ça très facilement. Mais la première des choses, c'est d'abord ramener les gens au sein de la communauté. Parce que si nous arrivons à réunir un nombre de 5 000 ou bien de 8 000 personnes au sein de la communauté, avoir la maison congolaise va être une chose très facile. Parce que lorsqu'ils comprennent la raison pour laquelle nous devons mettre ces bâtiments en œuvre ou bien pousser ces bâtiments de terre, alors ça va, donc ça va se créer facilement. Mais aussi, je dirais que il faudrait des programmes de fundraising. Parce qu'avec le 5 dollars, 10 dollars, 15 dollars, tu ne vas pas arriver à l'aboutissement de projet. Mais avec le programme de fundraising, dans le cadre où on a des portraits qui viennent du Congo, on peut faire la vente aux enchères avec la vision de la construction de la maison congolaise et aussi associer d'autres organisations partenaires pour nous aider à atteindre ça plus rapidement. On aura la maison congolaise. Mais pour l'instant, je pense qu'on peut d'ailleurs d'abord attaquer la problématique de à ramener le gens au sein de la communauté. Comprendre pourquoi est-ce que nous devons avoir la maison congolaise et le bénéfice de cette maison congolaise.
Bénéfice de cette maison congolaise. Daddy, vous n'avez pas encore répondu.
Je n'ai pas encore répondu.
D'accord, pardonnez-moi.
Et je n'avais pas même fini à répondre à la question sur la vision. Mais globalement, je peux dire, c'est parmi nos priorités. Quand j'ai parlé de la mission qu'on n'a pas atteint, il y a d'abord ramené tous ces membres. Parce que le membership, c'est très important. Mais les membres doivent comprendre leurs bénéfices. Et nous allons travailler sérieusement sur ça. Il y a d'autres point en termes de finances, nous voulons que sur le plan qui est vraiment une forme de, nous allons assurer et le respect dans notre manière de promouvoir ou de report ce qu'on appelle le rapport financier et ça va se faire trimestriellement. Ça, c'est très, très important.
Parce que je pense que cela n'a pas été fait dans le passé.
Ça n'a pas été fait. On veut pas entrer. C'est pas le débat de la communauté pour,
malheureusement, parler je pose les questions.
Oui, voilà. Donc, là, je veux pas entrer dans le détail.
D'accord.
Mais, c'est quelque chose que nous allons vraiment nous focaliser sérieusement sur ça. Pour la maison congolaise, là, j'ai rejoint Zoé. Quand elle a parlé de membership. Sans le membre, on ne peut pas atteindre cet objectif. Mais il y a aussi un moyen que nous allons proposer maintenant qui peut nous donner la maison congolaise sans qu'on attend réellement qu'on a atteint 10 000, 20 000, 30 000 personnes. Nous sommes déjà en train de travailler et les contacts sont là. Si nous sommes élus, d'ici l'année prochaine, nous avons pris des informations sur comment avoir la maison congolaise. Et je peux les dévoiler aujourd'hui. C'est-à-dire, nous allons commencer par une location. Nous allons louer un endroit, un warehouse, que nous allons aménager.
Et l'argent viendra d'où ?
Oui, c'est une location. La maison congolaise va s'autofinancer. C'est-à-dire, cet endroit, nous allons le transformer en location en même temps. Nous avons plusieurs églises dans le métropolitain, dans la région métropolitaine, qui cherchent des endroits pour prier chaque dimanche. Nous avons plusieurs personnes qui organisent des fêtes d'anniversaire. Nous allons mettre ça, cette salle, à profit. Pour les membres, tous les membres, leurs bénéfices maintenant. Parce que quand les gens viennent, il faut leur dire quel sera leur bénéfice. Et ça, la maison congolaise pourra procurer les bénéfices aux membres. En termes des gens qui peuvent venir louer, ils auront 50% discount, comme on le fait ici. En termes de personnes qui ont leurs produits, ils peuvent les amener à la maison congolaise. On va les exposer gratuitement et on va parler avec eux. Même 10% de leurs ventes pourront entrer dans la caisse. Tous les bénéfices de là où nous allons louer, tous ces fonds seront injectés dans le projet de la maison congolaise. Jusqu'à ce que nous aurons notre down payment pour acheter notre propre terre et construire. Ça, c'est notre plan. Et nous y travaillons. Et on est en train de travailler avec des realtors dans la communauté qui nous ont donné des stratégies très claires. On va dévoiler plus dans le débat.
Dans le débat. Vous êtes tous deux membres de cette communauté. Il y a certaines personnes d'origine congolaise qui arrivent dans ce pays, Zoé, qui ne savent même pas qu'il y a une certaine communauté qui existe. Et ils ne savent même pas par où commencer, par où s'enregistrer. S'ils ont un problème, ils ne savent pas chez qui poser la question. En tout cas, certaines se plaignent qui n'ont pas cette information-là. Sûrement, vous avez appris aussi de cela. C'est quoi le problème ? Est-ce qu'il y a un problème de communication, d'après vous, parce que vous êtes tous membres de cette communauté, vous en savez quelque chose ? Comment vous ferez pour changer les données ?
dans ce sens-là. Qu'un Congolais qui vient, je sais pas moi, de chez vous, à Lubumbashi, Bandundu, Kasai, Bukavu, arrive dans ce pays, qu'il sache que dans cette région, il y a sa communauté et il peut s'y rendre pour avoir une information. Hein. C'est pas nécessairement financièrement être aidé, mais avoir ces informations.
Merci beaucoup Roger pour la question. Alors selon nos analyses, j'ai observé avec mon équipe la problématique qui est au sein de notre communauté. Alors nous avons défini ça en quatre phases.
Quatre phases.
Voilà. Alors la première phase, c'est l'immigration. Lorsque quelqu'un vient aux États-Unis, il est buteur à la problématique de l'immigration. Pour certains, c'est plus rapide parce qu'ils viennent avec ce qu'on appelle leur green card. Donc ils ont facilement le document et ils avancent. Mais d'autres personnes sont butées au problème, ils doivent réajuster leur statut et c'est vraiment une expérience douloureuse.
Ah oui.
Ça fait très mal, donc beaucoup de tracasseries.
Ah ouais.
Et beaucoup d'argent. Alors la communauté peut aider dans ces sens-là, dans le sens où la communauté amène des experts au sein de nos conférences. Et juste apprendre à une personne comment faire une application même pour envoyer. Mmh. Où il y a même des avocats qui sont bénévolants, ils peuvent aider dans la formulation de l'application et envoyer juste de petits coachings. Mmh. Et ensuite, leur maintenant envoyer chez des organisations membres, en partenaire, aux organisations sœurs de notre communauté qui peuvent leur permettre de pouvoir avoir accès à cette aide dans le cadre de l'immigration.
Exactement.
Maintenant, lorsqu'une personne dépasse la phase de l'immigration, il est buté à un deuxième problème. La problématique de l'intégration.
Oui.
C'est là que la personne va chercher à connaître un peu l'anglais. Et chercher une petite voiture, chercher un petit boulot, commencer un peu à...
La culture américaine.
Voilà, apprendre un peu les choses. Ouais. Alors, après ça, on offre le programme de l'accompagnement dans notre département socio-culturel. Là, qu'est-ce que nous faisons? Nous allons accompagner le gens à savoir comment faire même l'application de Health Insurance, de l'assurance médicale, aider la personne à le guider et le support par rapport à ce qu'ils faisaient déjà au pays. Parce qu'on a des gens aujourd'hui qui étaient de professeurs au pays, mais qui se sont retrouvés dans une situation où ils doivent travailler dans le warehouse, alors qu'ils peuvent venir ici et continuer à utiliser leur background ou bien leur connaissance du passé. Mm. Mais aussi, il y aura la troisième phase d'ailleurs, lorsqu'une personne dépasse le niveau de l'intégration, il veut maintenant s'améliorer. On a connu tous des gens qui faisaient un boulot dans le passé. Maintenant, là, il veut améliorer sa vie.
Oui.
Alors, la communauté doit être à mesure d'offrir aussi de l'aide dans ces sens-là, dans le sens où il y aura des conférences sur le business, des conférences sur comment créer une entreprise en République démocratique du Congo, comment commencer un LLC ici aux États-Unis. Cet accompagnement-là va aussi aider. Maintenant, la quatrième phase, c'est la contribution. Parce que lorsque tu arrives déjà à un certain niveau, tu veux maintenant contribuer à la génération qui viendra après toi. Alors, on doit créer des programmes pour aider en fait ces gens-là à pouvoir contribuer dans la vie de la jeunesse, mais aussi nos jeunes qui sont ici, ils sont beaucoup plus intéressés à contribuer. Alors, comment est-ce qu'on va arriver là? Il y a 5 départements qu'on compte mettre en place. Département de l'immigration, département socioculturel, département de business, innovation et grants. Pourquoi? Parce qu'on a besoin de dons venant de d'autres organisations pour nous permettre en fait à avancer notre organisation. Et le quatrième département, c'est le département de la jeunesse, parce qu'on doit amener ce jeune-là, recevoir leurs idées, promouvoir le leadership dans la jeunesse. Et le cinquième qu'on a vraiment réfléchi avec l'équipe pour établir, c'est le département des échanges idéologiques sur la RDC. Parce que j'ai remarqué que le Congolais, bien qu'il soit à l'étranger, ils ont vraiment un cœur pour leur pays. Alors nous voulons créer un cadre où ce gens de la communauté pourront venir échanger des idées, initier même des marches, initier même des injonctions sur le gouvernement américain tout comme sur le RDC. Aujourd'hui, c'est pas du tout normal qu'on puisse déporter un Congolais, par exemple. Voilà. Donc à partir de ce département-là, des échanges idéologiques sur comment investir au pays, sur comment aider nos frères qui sont ici, que nous allons ensemble, le vieux, le jeune, tout comme le petit, travailler ensemble, le maman et le jeune fille, travailler ensemble pour trouver des idées qui vont permettre à ce que cette communauté puisse avancer. Nous devons comprendre que la communauté doit avancer. Mmh. La vision qui a été établie initialement, elle est belle, elle est bonne, mais c'est important qu'à chaque génération de pouvoir amender.
Pousser
un peu plus loin pour nous permettre d'avancer. Mmh. Mais non, désolé, pour finir, alors comment arriver à faire cela? Nous avons le système de réseaux sociaux. C'est très facile, mais aussi un autre système que nous allons instaurer, c'est de push text messages. Parce qu'il y a d'autres gens qui ne peuvent pas utiliser WhatsApp, mais qui peuvent recevoir de messages directs sur leur numéro de téléphone. Et on va commencer à envoyer ça, ça coûte rien du tout. On va commencer à envoyer ça aux gens au sein de la communauté et leur faire savoir que votre communauté est là pour vous aider et pour vous servir.
Ça c'est très important. Jean-Louis, avant ta question, je veux quand même que Monsieur Djamba réponde aussi à la même question.
J'essaierai un peu bref. Je dirais que l'intégration, c'est la clé. Moi-même, je suis fruit de cette expérience. Moi, je suis venu dans ce pays. Je ne connaissais rien, je ne parlais pas anglais. C'est quelqu'un de la communauté qui m'a montré la voie à suivre. Je peux même le citer ici, il est en train de nous suivre, monsieur Panclas Yende, qui m'a appelé. J'ai commencé à travailler à Ferguson, dans le warehouse. J'ai travaillé, porté des cartons. Et là, je vous confirme que je n'ai jamais quitté cette compagnie depuis que je suis là.
C'est pas vrai.
Je suis le branch manager aujourd'hui.
Ben on applaudit quand même.
Voilà. Oui, absolument.
Ouais. Alors, c'est ça, l'importance de l'intégration que Zoé a souligné.
Mentionné,
et là,
très
je suis vraiment d'accord avec vous.
Très important.
De ce que vous avez fait et de ce que vous avez soulevé.
Ouais.
Mais moi, j'aborde ça dans un autre angle.
C'est-à-dire?
Je pense que nous devons créer une base de données de vous tous, les journalistes, les fermiers,
les ingénieurs,
dentistes. Mais attention, les gens là de warehouse, ils sont toujours importants.
Très
et moi, je dis toujours aux gens qui viennent ici, il ne faut pas toujours perdre votre temps pour aller finir dans les universités avec des titres PhD. Vous pouvez faire la plomberie. Vous gagnez plus que les gens qui travaillent à la Banque mondiale.
Bien sûr,
je sais et puis je vois.
Bien sûr.
Donc, nous devons avoir enseigné les gens qui arrivent. Nous devons créer une base de données. Nous avons un forum qu'on a créé et que je pense, si nous sommes aujourd'hui à la tête de la CCWM, nous allons instaurer ce système dans notre communauté. On appelle ça forum des compétences. Et je pense que Zoé aussi est dedans. Nous avons connu beaucoup d'experts qu'on n'a jamais connus dans la région métropolitaine, qui sont ici des grands professeurs d'université, qui nous ont parlé et on a créé des grands networks parce qu'ils ont parlé. Nous allons identifier tous ces gens, créer une base de données. Et si nous avons quelqu'un qui vient au Congo, même s'il ne parle pas anglais, eh bien, on l'envoie chez les spécialistes dans son domaine pour l'encadrer et pour qu'il continue. Excusez-moi rapidement, moi-même quand je suis venu, j'ai fini au Bénin en sociologie. Mais j'ai perdu du temps ici pour arriver là où je suis. En fait, quand je suis arrivé, je n'avais pas beaucoup d'informations en termes de l'éducation. Je me suis embrouillé. J'avais la green card, mais j'ai commencé à payer dans une école privée.
La communauté pouvait bien aider.
Pour apprendre de l'anglais payant. Oh, j'avais la green card, je pouvais aller directement au community college.
Manque d'informations.
Voilà, manque d'informations. Nous allons créer ce cadre. C'est ce qui est très important. Et c'est pourquoi nous nous battons pour la mise en place rapide de la maison congolaise. Et ça sera un moyen où tout Congolais qui vienne, il se dirige directement là-bas. Il n'a pas besoin d'appeler ou le président ou le secrétaire.
Voilà, là-bas, il sera déjà bien servi.
Le numéro sera en ligne partout. Tout le monde pourra joindre la communauté facilement.
Oui, moi, au fait, mes deux collègues peuvent témoigner. Mon souci constant, ce sont les programmes. Parce que ce que j'ai remarqué tout le temps que nous sommes là, la communauté est vraiment très éveillée quand au moment des élections on est là, et après les élections il y a comme une petite mort, un petit coma, et qu'est-ce que vous préconisez pour remédier à ce problème là parce qu'une communauté elle doit vivre chaque jour, les membres doivent se retrouver, ils doivent avoir des activités, ils doivent avoir des gens à qui parler, des contacts, etc. et tout. Qu'est-ce que de tous les deux, qu'est-ce que vous pensez par rapport à la création de programmes de ce genre?
Ok, déjà merci pour la question. Moi je pense que vous savez, la communauté, nous avons tout body, nous avons le président de l'exécutif, le comité exécutif et les board. Généralement, Moi, si je suis élu, je vais mettre le board au travail. Ils vont travailler. J'ai déjà pris contact avec quelques candidats à la présidence du conseil d'administration. Pour dire que comment est-ce que si aujourd'hui nous sommes élus, vous êtes élu, moi je suis président, comment est-ce qu'on va mettre ensemble le programme que moi je peux vous proposer ou ce que vous pouvez proposer. Moi je suis exécutant si je suis élu. Donc cette question engage aussi le board. Nous avons besoin d'un board responsable. Je suis en train de suivre les échanges sur notre plateforme et on a déjà des idées de programmes qu'on va mettre en place. Mais nous, déjà à notre niveau, avec mon équipe, c'est parmi nos priorités, d'abord pour amener l'argent dans la communauté. Sans le programme, tout le monde parle de grant. S'il n'y a pas de grant, s'il n'y a pas de programme, on ne peut pas y arriver.
Il n'y a pas de grant.
Et des programmes prioritaires pour aujourd'hui qu'on a identifiés, comme la communauté n'est pas encore allée. Nous ne sommes pas vraiment une grande communauté en termes d'organisation, là, il faut le dire. Nous avons des programmes ISL que nous allons mettre en place. Ça, c'est la priorité. Nous avons des programmes de l'entrepreneuriat. Ça, c'est la priorité. Nous avons le programme de bien-être social. Ça peut vous surprendre, mais c'est quelque chose que nous allons travailler au niveau de la communauté pour informer nos gens sur les différentes maladies, informer nos membres de la communauté sur l'importance de faire le sport. Ce sont des choses simples, mais ce sont des choses que nous avons catégorisées. Et nous allons développer ça beaucoup dans notre débat, comme j'ai dit. On ne veut pas sortir les cartouches ici pour qu'on nous prenne par derrière.
Mais avez-vous identifié les barrières?
Et les barrières, on va en parler parce qu'on me dit on a juste respiré en musique. Mais finissez avec la question, puis qu'on va écouter.
Quelles sont les barrières que vous pensez que vous allez rencontrer ou que vous avez déjà identifiées?
Voilà.
Qui risquent que vous devez pouvoir.
Éviter. Et ça, on parle de défis. Nous allons revenir dans un instant. On écoute d'abord la musique. Lionel nous dit, respire un peu. Nous revenons dans un instant. Et bien sûr, pour continuer, si vous avez aussi des questions à nous poser, n'hésitez pas au plus 1-703-350-37-31. Si vous avez des questions à poser à nos invités de ce soir. On va écouter Rumors, c'est Lizzo et Cardi B.
They don't know I do it for the culture, oh man. They say I should watch the stuff I post, come on man. Say I'm turning big girls into pros, come on man. They say I get groupies at my shows, come on man. All the rumors are true, yeah. What you heard, that's true, yeah. Him and you, yeah. If you believe I do that, had to cut them all loose. Yeah, NDA no loose lips. Now they all tryna sue me. Psh, I don't give two lips. All the rumors are true, yeah. I've been in the bamboo, yeah. Focused on this music. My ex-man, he blew it. Last year I thought I would lose it. Reading on the internet. My smoothie cleanser, my diet. No, I ain't smashed Drake yet. Spending all your time trying to break a woman down. Real things are going on.
Can't even read the through this milk. I'm a Bronx to some pop hits. You can pop off when they pop hits. But I'm calmed down and I'm locked in. And my records live in the top 10.
Let's go.
Teach me about big girl.
Okay.
Last time I got freaky, the SEC sued me. But I'ma keep doing what I wanna do. Cause all the rumors are true.
They hated on me since school, yeah. I never thought I was cool, yeah. Now me and Cardi, we cool.
are listening to the RM Show at VOA Africa, comme on dit en anglais, bien sûr, dans notre émission. Pour ceux-là qui écoutent RM Show chaque mercredi et vendredi, c'est l'anglais dans RM Show. Aujourd'hui, bien sûr, dans cette émission, nous avons nos invités pour parler de notre sujet de cette semaine, un sujet très important. Mais il faut pas oublier que les deux invités sont aussi dans une opposition entre les deux. Je comprends pas comment tous ils sont d'accord dans tout ce qu'ils disent. Mais la question à poser maintenant, c'est de savoir comment, pourquoi vous êtes des opposants, mais vos idées se rencontrent quelque part. Pourquoi vous n'avez pas décidé à travailler ensemble? Ça m'étonne de voir que vos réponses à ces questions vont vraiment de même, comme si vous avez une même vision ou des mêmes projets. Parce que j'ai vu à plus de Jean-Louis, je vais laisser ta question pour répondre, mais je vois au moins 4 ou 5 fois Jean-Louis, Monsieur Djamba qui dit à Monsieur Adjanga, il dit ouais, oui, en fait, je suis d'accord avec vous. Monsieur Zoé qui dit oui, au fait, j'étais d'accord aussi avec ce qu'elle avait dit. Alors, je ne sais pas.
C'est la vision commune.
Comment on peut mettre ces deux-là vraiment contre? Ça ne marche pas, Jean-Louis.
Non, mais c'est une vision commune.
C'est une vision commune, c'est
oui,
vrai.
On le voit tous, on sait. On peut avoir des approches différentes, ouais. Mais en fin de compte, nous voulons tous arriver au même endroit.
Au même endroit. Je vous laisse. Oui, mais d'abord, je vous laisse répondre à la question de Jean-Louis.
Oui, les défis et les barrières.
Voilà, Zoé. Alors,
le défi et barrière, premièrement, c'est l'inclusion d'abord de tout le monde. Ce sont des défis. Il y a d'autres personnes qui, on doit aller leur visiter, leur montrer le pourquoi. Il faut vraiment des explications, pourquoi est-ce que nous devons être ensemble. C'est la première des choses qu'on doit d'abord essayer de convaincre à la personne. Pourquoi est-ce que le Congolais doit être ensemble? Et quels sont les résultats? J'ai même parlé de ça dans ma vidéo. Quels sont les résultats que nous pouvons achever si nous sommes ensemble? Parce que il y a cette déclaration qui est vraie, c'est que seul tu peux aller plus vite, mais ensemble, nous allons plus loin. Parce qu'il faudrait aussi leur mettre dans le cœur ces désirs-là de pouvoir laisser l'héritage aux enfants qui vont venir après. Alors, le défi sont dans ce sens-là, mais aussi, ils ne trouvent pas assez d'opportunités au niveau de la communauté. Alors, voilà pourquoi nous allons venir avec des programmes qui vont leur donner ces sens-là, en anglais, sense of belonging, sens d'appartenir, d'appartenance dans quelque chose. Okay. Alors, première des choses, c'est de créer d'abord le programme de mentorship, le mentorat, où on va joindre le jeune. Lorsque je parle de jeune, je parle de personnes qui cherchent des opportunités. Donc ça peut être 40 ans, 50 ans, qui cherchent de nouvelles opportunités. On va alors joindre aux gens qui font déjà la même chose. Dans cette communauté, on a de nurses, on a de docteurs, dans la médecine, on a des ingénieurs. Et il faudrait joindre le deux bouts. Donc amener ce jeune-là, gens qui cherchent l'opportunité, leur joindre à ceux-là qui font déjà la chose dans le cadre de networking events. Autre chose, les gens traversent le monde difficile aux États-Unis. Il faudrait avoir un programme d'accompagnement. Alors c'est au travers de programmes d'accompagnement-là que nous pouvons avoir de grants. Parce que si aujourd'hui, notre communauté offre des aides dans l'application de bénéfices comme health insurance, accompagnement de gens aux États-Unis, nous pouvons recevoir de grants pour ça parce que nous sommes en train d'aider les gens qui vivent aux États-Unis. Donc voilà le programme. Autre chose aussi, des activités culturelles pour promouvoir en fait notre culture. Nos enfants sont ici, la plupart d'eux ne parlent pas nos langues. Donc il faudrait d'abord commencer à apprendre à nos enfants le Lingala, les Chuluba, les Kikongo, les Swahili. Comme ça, ce qui fera que ces enfants-là, lorsqu'ils partent au pays, ne puissent pas être dépaysés sur le fait qu'ils n'arrivent pas à parler la langue de leurs parents. Voilà le programme qu'on va créer au sein de la communauté, mais aussi de compétition. Je parlais avec mon équipe d'instaurer de jeux de compétition en famille, où la famille Muntu peut venir jouer contre la famille Mafema, et la famille Djamba peut jouer contre la famille Adjanga. Alors, ça donne cette envie-là de pouvoir être dans la communauté. Alors, on va créer beaucoup d'événements comme ça, mais aussi des événements pour le coaching de femmes, parce que nous savons que la femme, c'est la colonne vertébrale d'une nation. Donc, il faudrait investir aussi dans la jeune femme. Donc, on va créer des programmes où nous avons de mamans, de mères qui conseillent aux jeunes femmes et qui se partagent des expériences par rapport à la réalité actuelle. Mais aussi des programmes de partage entre le jeune homme et aussi le papa. Parce qu'il faudrait rapprocher
cette
relation-là. Parce qu'il y a d'autres personnes aujourd'hui qui ont complètement perdu la relation avec leurs parents. Et on veut restaurer ça. Restaurer un peu ce sens-là africain, mais aussi du respect de l'aîné. Parce que ce sont nos valeurs, inculquer ces valeurs-là dans nos enfants, pour que nos enfants puissent être la lumière de demain. Parce que comme on le dit, que l'avenir, ce sont les jeunes. Donc on doit faire ça.
Monsieur Djamba.
Ouais, pour l'obstacle, de programme, je dirais que c'est la sensibilisation. Nous voulons que les gens soient mieux informés de ce qu'on fait. Un exemple, on était le dimanche passé, on est parti en Virginie. Et qu'est-ce que j'ai vu là? Les gens se demandaient, mais qu'est-ce qui est la CCWM? Il a fallu les expliquer.
Voilà.
Donc, si on fait un programme quelconque où on invite les gens, bon, écoutez, nous avons un programme ici, c'est pour vous. Venez, par exemple, envoyer vos enfants pour le cours des langues, pour le cours de ESL, gratuit, par exemple. Mais ils se demandent, mais pourquoi ces gens... Ils vont se demander beaucoup de questions. Moi, l'obstacle, c'est l'information. Et nous devons travailler sérieusement sur ça. Comment y remédier? Pour y remédier, la communauté maintenant couvre toute la région de DMV. Donc, nous allons mettre nos représentants dans tout ce coin. Et on n'a pas besoin d'aller... que le président sillonne toute la région. Et là, nos informations vont réellement passer. Oui, donc moi je pense que c'est l'approche. C'est donc l'approche. Nous devons être proches de nos populations, de nos membres.
En parlant, merci de parler de ça, parce que j'ai une question à vous poser, monsieur Djamba, parce que en parlant de cette proximité-là, 2-3 mois passés ici, il y a eu des événements malheureux, en tout cas dans certains membres de la communauté que je connais personnellement.
Okay.
Et ils m'ont appelé, ces familles m'ont appelé pour me dire combien ils étaient extrêmement contents que monsieur Djamba s'est déplacé pour aller les rendre visite.
Ouais.
Bien que vous ne les connaissiez même pas.
Ouais.
Et donc ça a touché à ces familles-là. Et je ne vous ai jamais dit ça, mais je vous l'ai dit à l'antenne, beaucoup. Parce que c'était touchant que ces familles-là m'appellent pour me dire, mais Roger, je ne connais pas monsieur Djamba qui est venu nous rendre visite en famille et tout ça. C'était quand même profond.
Ouais.
C'était profond. C'est pourquoi en parlant de cette proximité-là, vous m'avez donné... Est-ce que c'est quelque chose que vous êtes en train de faire ça maintenant à cause de la campagne, ou c'est quelque chose que vous voulez pérenniser si vous devenez président de cette communauté?
Oui. Merci beaucoup pour la question, Monsieur Roger. Moi, je pense que le travail que nous faisons, je l'ai toujours dit, c'est le travail comme le travail des pasteurs. On n'a pas de salaire, mais si à la fin, on espère quelque chose. Donc, c'est une vocation. Si tu n'es pas appelé à servir, tu ne peux pas servir la communauté. C'est un service que nous rendons. Moi, bon, je n'ai pas parlé de... Partout où je suis passé, j'ai toujours servi. Pour vous relater un peu mon histoire rapidement, quand je suis allé à l'université de Kinshasa, j'ai étudié à l'université de Kinshasa, j'ai fait 2 ans en sciences politiques, j'étais CPA. J'ai quitté, je n'ai pas fini, j'ai fait 2 ans, je suis allé au
pour
Bénin.
Pour nous qui ne savons pas CPA, c'est quoi?
CPA, c'est le chef de promotion adjoint.
D'accord, super.
Et je suis allé au Bénin, j'ai trouvé que la communauté n'était pas organisée, même les étudiants. Je suis fondateur de l'association des étudiants congolais au Bénin, et aujourd'hui ça s'est répandu partout en Afrique de l'Ouest.
Waouh.
Oui. Et j'ai servi, pas comme président, j'étais vice-président jusqu'à ce que j'ai quitté le Bénin. Et c'est en ce moment, j'avais 20 ans, on m'a identifié pour être le secrétaire général de la communauté congolaise au Bénin, le plus jeune. Et j'ai donné tout ce que j'ai donné jusqu'à ce que je suis venu aux États-Unis. Et là, j'ai été identifié par Kojiski, qui est un réseau de plus de 350 ONG en RDC. Je suis leur représentant au niveau des Nations Unies. Je ne suis pas payé. C'est là que j'ai rencontré tout le monde, que les gens parlent comment tu as rencontré les autorités du pays. C'est là que j'ai rencontré tous ces gens. Donc, servir, c'est ma vocation. Quand je suis arrivé ici, j'ai trouvé la communauté. La communauté n'existait pas. On a créé avec M. Jérôme à Baltimore, la famille Kazadi, je vous salue. On a créé l'association des Congolais de Maryland. Et j'étais parmi les fondateurs. C'est quand on a eu des rumeurs sur la création de la CCWM, on a dit, on arrête, on va se rallier à Sisi Dabi Ouham. Et c'est pourquoi je suis là. Ouais. Je travaille de tout mon cœur, ouais, que je sois dirigeant, ouais, avec un poste ou non.
Ou sans dire, sans
donc, ce qui compte
servir
pour moi, ouais, c'est servir cette communauté.
Et vous êtes d'accord, ouais, avec ça, monsieur Adjanga, servir, comment vous comptez vous, est-ce que c'est très important, ce que je veux dire, cette proximité-là, d'aller rendre visite aux familles, que ce soit dans la joie, dans les malheurs, aller visiter ces familles chez elles à la maison?
Extrêmement important parce que ça fait déjà partie de notre culture congolaise, que lorsque nous avons de deuil, de problèmes comme ça qui tourmentent vraiment de famille, on part également rendre visite. Moi, j'étais à Baltimore, je passais beaucoup de temps à Baltimore. C'est vraiment ça la culture qu'on se fait.
Oui, oui, oui.
Bien que ça ne peut pas vraiment être diffusé en ligne comme ça.
Ça, c'est très important. Mais parce qu'on s'approche vite fait à la fin de cette émission, mais vite fait, pourquoi... Et ça, c'est une question pour vous, monsieur Adjanga, d'abord. Pourquoi cette communauté doit voter pour vous, pas pour monsieur Djamba?
C'est une bonne question.
Là, maintenant, je sais que division est venue. C'est ça l'émission même.
Provocateur.
Alors, pourquoi est-ce que la communauté doit voter pour moi? Premièrement, c'est à cause de la vision que nous avons, de choses que nous voulons apporter au sein de la communauté. Je pense que la communauté a été créée depuis 2013, que ça existe. Il y avait une vision initiale qui a poussé la communauté jusqu'à ce qu'elle là où elle se retrouve maintenant. Mais il faudrait ajouter de nouvelles idées. Voilà pourquoi c'est important d'avoir une nouvelle énergie qui vient avec des idées pour amener tout le monde ensemble, mais aussi amener des opportunités. C'est la chose la plus importante.
Ah, les opportunités.
Les opportunités, mais aussi les échanges et l'inclusion de tout le monde.
J'étais
avec un Congolais qui est ressortissant de Goma. Il disait qu'il ne se sent pas vraiment
concerné,
ouais, mais il se sent pas accueilli.
Accueilli
dans la communauté. Ouais. Je m'ai rencontré un autre frère qui est à moitié congolais, son papa c'est un blanc, mais il m'a dit que j'ai essayé d'approcher la communauté, mais je sens comme si on me repousse. Alors on veut inclure tout le monde ouais, pour se partager des idées. Alors pourquoi est-ce qu'on doit voter pour moi? C'est parce que nous sommes la voix du changement. Nous voulons amener la jeunesse au sein de la communauté, mais aussi faciliter les échanges des idées entre le vieux et la jeunesse.
Et la jeunesse. Merci. Monsieur Djamba, pourquoi voter pour vous et pas pour
Monsieur
Zoé?
D'abord, j'aime la dernière, ce que vous avez dit, c'est là que l'émission commence. D'abord, j'aime la différence, parce que même dans une famille, les enfants peuvent être d'une même famille, mais ils sont différents. Et ça, c'est la force d'une communauté. Zoé, on a toujours été ensemble en 2020.
Et vous avez refusé le travail ensemble, de vous poser d'aller.
Je pense que
ticket.
Zoé, pour dire vrai.
Ah, c'est Zoé qui est parti.
Pour dire vrai.
On a compris.
Non. Bah, pour dire vrai, c'est un bon partenaire. Oui, on a toujours besoin de lui dans la communauté. Maintenant, comme nous parlons élection, pourquoi voter pour moi? Qu'est-ce qui est différent? Je suis sur le terrain. Je connais la communauté. La communauté me connaît. Chaque jour, je suis chez mes membres. Je connais ce qu'ils font et je leur apporte, selon ma connaissance, selon mes moyens, comment améliorer ce qu'ils peuvent faire ou comment faire en termes de conseils ou en termes de tout. Si je suis arrêté, je sais où frapper la porte pour les accompagner.
Pour trouver la solution.
Donc, je suis là pour accompagner. Ouais. C'est ça la seule différence que je peux apporter. Comme vous avez dit, nous avons les mêmes idées. Oui, tout le monde travaille.
Exactement.
Niels,
mais
Zoé.
Niels, Zoé.
Mais la différence, moi, je suis avec ma communauté.
La communauté et Zoé, Zoé n'est pas avec sa communauté. D'accord,
qui pleuve, qui neige.
On a compris. Donc, Zoé n'est pas avec. Jean-Louis, je vois qu'il y a quelqu'un qui a écrit quelque chose. Qu'est-ce que quelqu'un qui, juste
c'était,
pour.
C'était.
Qu'est-ce qu'Aimé Cessard dit?
Il dit que vous n'aviez pas répondu à la question du le quotidien, le vécu de la communauté, des membres de la communauté. Vous n'avez pas vraiment répondu qu'est-ce que vous allez faire pour qu'il y ait ce changement, les gens sentent que la communauté, elle vit, elle existe.
Donc là, ça, vous allez répondre à ça prochainement. Parce que on n'a pas assez de temps. Eh bien,
on a la réponse, mais en tout cas, avec
votre permission, si vous voulez revenir encore, ça sera avec plaisir, en tout cas.
Ah oui,
bien sûr.
Mais d'accord,
bien sûr.
Super. On commence à atterrir ici. On dit merci à Lionel, à Runani Ragaïma, merci à Rob McLean. Lionel, qui nous a fait la vidéo aujourd'hui, hein? Je ne sais pas c'est qui. Est-ce que c'est Bob? Ouais, merci à Bob. Thank you, Bob. Merci à vous tous. Et bien sûr, on a déjà dit merci à Rob. Bob McLean déjà. Merci beaucoup à vous tous qui êtes restés à l'écoute de cette émission. On se retrouve demain dans RM Show et c'est comme ça RM Show, on nous recevons des invités, une autre journée c'est la musique seulement. Mais écoutez, c'est RM Show, c'est notre engin super fast, super sonique, super rapidos. Salutations en tout cas à tous ces membres de la CCWM hein, et surtout l'organisation électorale hein, votre comment on s'appelle
le comité
électoral. Voilà. Merci en tout cas à tout le monde. On s'est dit comme d'hab, God bless, peace Africa.